Bonsoir à tous, bonsoir Martin, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Martin?
Ben ça va, merci, merci de me recevoir. Ça va très bien.
Eh ben génial, avec grand plaisir. Alors Martin, tu le sais, la première question que je pose toujours dans cette émission Café Trailer, c'est que tu nous racontes ton premier trail.
Alors, mon premier trail, c'était pas le plus glorieux, mais ça remonte à 2014, où sur un coup de tête, je marche pas mal au challenge. Sur un coup de tête, j'habitais Toulouse, je me dirige vers les Pyrénées sur le trail des novices du Challenge du Mont-Calm. Donc aujourd'hui très connu par le fameux marathon du Mont-Calm et puis par la Pika Pika. Et donc j'ai découvert un univers de fou, donc des gens passionnés, une orga passionnée, des montagnes super belles à proximité de la ville. C'était vraiment une belle découverte. C'était quand même 23 km, je crois que j'avais mis 3 h 30. Je m'étais accroché à la première féminine qui m'avait battu, donc j'ai fait deuxième féminine. Et un souvenir de fou, le lendemain, voilà, comme j'étais déjà en train de me réentraîner. L'année d'après, j'ai fait le marathon du Mont-Calm. Donc voilà, c'était une des plus belles découvertes de ma petite carrière.
Alors, comment t'en es venu à t'inscrire à ce trail? C'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'accrocher un dossard pour la première fois?
Alors, je suis ingénieur de formation et à cette époque-là, je bossais en bureau beaucoup sous forme saisonnière, donc à très forte charge de travail. Donc, tous les mois, on va dire, j'étais 15 jours, j'étais vraiment la tête sous l'eau et j'avais ce besoin en sortant de ces 15 jours de respirer l'air des montagnes. Et j'allais de plus en plus donc dans les Pyrénées, m'entraîner. J'avais pas la caisse, je faisais 90 kilos à cette époque. C'était après une grosse période étudiante, on va dire, intensive. Donc voilà, j'ai redécouvert les montagnes, j'avais envie de passer du temps là-haut. Et donc j'ai vu le trail, j'ai vu que ça me plaisait. Bon, j'ai fait quand même 10 ans d'athlé avant, je connaissais un peu mon corps, mais voilà, mon corps, il avait ses capacités qui étaient complètement. Pas performante, quoi. Donc, il a fallu que je me remette dedans et petit à petit, ça crée, comme on dit, des endorphines et la passion est revenue. Donc, ouais, à fond. Et du jour au lendemain, voilà, un soir, je me suis dit, là, il y a un trail, allez, je vais voir ce que je peux faire. Et donc, la passion est venue.
Alors, quand tu étais ado, enfant, tu étais plutôt dans une dynamique sportive ou tu étais plutôt pas trop sport, plutôt les études, la lecture, c'était quoi ton mode de vie?
Alors, je pense que le plus gros problème de mes parents, c'est que j'étais intenable. J'étais pas capable de rester à bouquiner tranquille au coin du feu. Non, j'étais plutôt tout le temps dehors. Même eux, c'est eux qui m'ont incité, hein, on va dire. J'étais bercé au pied des parois des Calanques de Marseille pendant qu'ils grimpaient. Donc c'était vraiment dès le plus jeune âge, j'étais directement introduit dans cet univers de la montagne et de la nature. Et donc, j'ai fait à 7 ans. D'ailleurs, c'était sur un des premiers trails de Champagny-en-Vanoise où j'avais vu mon cousin courir. catastrophe, arrivé au bout de 20 km, les jambes démontées. Je voyais les gens, ils s'étaient balafrés, ouverture d'arcade, l'autre des 1000 épaules à la descente du refuge du plan des Gouilles. Là, ça m'a traumatisé. Je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Et l'année d'après, à 7 ans, donc j'avais 7 ans. Mes parents m'ont inscrit à l'école d'athlétisme et donc j'ai fait toutes mes classes d'athlétisme, du cross et jusqu'à à peu près 18 ans, quand je suis rentré en classe préparatoire pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Là, j'ai un peu stoppé le sport, on va dire. Et voilà, mais j'ai toujours eu cette passion de la course à pied, ça c'est clair.
Et t'avais quel niveau quand tu étais en école d'athlé et tu faisais du cross, donc du coup plutôt des courses rapides? Ça a un petit peu changé depuis, on pourra en reparler. T'avais quel niveau à cette époque-là?
Alors, je pense que j'ai toujours été un peu doué dans les sports. C'est vrai que je me souviens pas vraiment tout jeune, mais j'ai eu une période en c'était quoi, poussin, minime, cadet, junior, où j'étais dans le top 3 régional, on va dire, sur les crosses. Après, je suis passé plutôt sur du décathlon. J'aime bien être un peu, quoi, je suis polyvalent, donc j'aime bien un peu toucher à tout. Et donc, j'ai fait pas mal de décathlon. Je fais du 110 mètres haies, après j'ai fait du 400 mètres. Et bah, voilà, après je me suis arrêté pour les études. J'ai fait plutôt du windsurf, beaucoup plus de ski. Et voilà, maintenant le trail, ça regroupe un peu tous ces sports, donc c'est top, quoi.
Ouais, c'est vrai que le trail a l'avantage de nous amener un petit peu dans nos retranchements, au bout de nos limites. Et je le disais donc du coup tout à l'heure, tu t'es maintenant penché vers le trail et même l'ultra trail. Comment est-ce que tu en es venu à pratiquer cette discipline de l'ultra et qu'est-ce qu'elle t'apporte?
Alors effectivement, l'ultra, j'y suis tombé assez rapidement, on va dire. Si j'ai mis mon premier dossard en 2014. En 2015, j'ai rencontré des gars en montagne, un refuge en Ariège. Donc Nahual Passera et toute la clique. Nahual Passera, c'est quand même, c'était Monsieur l'ultra à l'époque. Il a gagné l'Andorre, il a gagné plusieurs courses mythiques et donc, moi, j'étais en pleine hippo, en fin de sortie, je croise les gars, ils m'offrent un coca. Et depuis, je ne les ai jamais lâchés, en fait. C'est devenu mes potes, mes amis. Nahu, l'année d'après, il tentait le Tour des Géants. Voilà, il a gagné plusieurs fois Euphoria, donc une course en binôme sans balisage en Andorre, bon, qui n'existe plus malheureusement. Mais c'était vraiment une source d'énergie et de motivation incroyable. Donc, parmi tant d'autres. Après, j'ai découvert vraiment l'ultra par moi-même en Nouvelle-Zélande. Donc, en 2016, je me suis inscrit à mon premier ultra, 160 km. Ça faisait que 2 ans vraiment que je recourais. Donc, j'y suis. Voilà, j'ai quand même ce passé d'athlétisme. Donc, j'ai peut-être grillé les étapes. Je me suis un peu abîmé les tendons à un certain moment, mais voilà, j'y suis allé petit à petit, on va dire. Sur des ultra faciles, après plus difficiles. Et donc maintenant, je m'éclate à prendre part à toutes ces courses, quoi. Surtout en Europe où on voit qu'il y a une densité énorme. C'est là où la motivation est d'autant plus importante, puisque voilà, faut vraiment aller chercher très très loin pour se démarquer, quoi.
Alors, tu nous as parlé d'une course en Nouvelle-Zélande. Alors, qu'est-ce qui fait que tu sois allé faire une course là-bas? Tu travaillais là-bas à cette époque-là?
Oui, exactement. Donc, je suis parti 3 ans en Nouvelle-Zélande, changement de vie. J'ai quitté mon CDI de Toulouse pour partir là-bas, découvrir autre chose, une autre culture et les grands espaces. Et la course à pied m'a vraiment donné cette force, cet équilibre de tous les jours pour continuer à faire de mieux en mieux, quoi. Et la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment, en termes de course à pied, c'est. Ils sont peut-être, je courais pas à l'époque, mais 10-15 ans en arrière de nous, il y a peut-être 50 personnes qui prennent le départ d'une course réputée, à part la Tarawera qui fait partie du Ultra Trail World Tour. Et donc, celle-là est quand même grosse. Il y a beaucoup de monde qui l'a fait. Donc, le reste, c'est quand même des petits comités. C'est local, c'est familial, limite. Il y a une ambiance chaleureuse. On est loin de toutes ces organisations qui sont maintenant hyper commerciales. Mais c'était un régal de découvrir du coup l'ultra là-bas, quoi. C'est vraiment plus l'aventure que accrocher un dossard et aller le plus vite possible, quoi.
Alors, j'ai oublié de préciser pour tous ceux qui nous regardent ce soir ou nous écoutent, vous pourrez nous écouter aussi en podcast, en replay. Et si vous êtes là pendant le live, vous pouvez poser toutes vos questions à Martin et puis on y répondra avec grand plaisir durant le live. Alors, ce sujet-là de la Nouvelle-Zélande, ça m'intéresse qu'on le creuse un petit peu. Qu'est-ce qui fait que tu sois parti? Parce que perso, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup apprécié faire et j'ai jamais eu vraiment le courage, tu vois, quand t'es après le bac ou après les études, de partir comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment cette force et cette envie d'y aller et d'aller découvrir un autre pays?
Alors effectivement, moi j'avais déjà 24 ou 25 ans, donc j'avais déjà un appart, quoi, j'avais acheté un appartement à Toulouse, j'avais déjà une vie. On va dire sur Toulouse où je m'étais implanté avec un CDI. C'était clairement après dans mon job, c'était intéressant, mais j'avais plus ou moins fait le tour en fait de mon poste. Je me voyais pas forcément évoluer dans cette entreprise-là. Et donc à cette époque-là, j'avais vraiment envie de partir à l'étranger, vivre une autre aventure, on va dire. La Nouvelle-Zélande, c'était toujours resté dans un coin de ma tête, même si c'est à l'autre bout du monde. Voilà, on a tous les images de ces grands espaces, nature sauvage. Des volcans, l'océan, j'aime bien surfer aussi, donc le ski, ça regroupait un peu tout ce que j'aimais. Et donc, je n'ai pas été déçu là-bas. Après, c'est sûr que c'est une culture complètement différente. Il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses. Mais effectivement, je pousserais tout le monde à un jour, moins de 30 ans, on a cette opportunité d'avoir des visas working holiday, comme on appelle, donc qui permet de bosser, de voyager pendant un an. Après, ben moi, j'ai eu la chance d'être sponsorisé et trouver un emploi stable. Mais c'est vrai qu'il faut le faire, quoi. Ça permet de se rendre compte qu'on est bien en France, quoi.
Ouais, c'est sûr que s'il n'y a que en voyageant finalement qu'on se rend compte de tout ce qu'on a en France. Et d'ailleurs, je me dis souvent que quand on revient, ça doit être difficile de garder ces souvenirs-là de tiens, bah, tout ce qu'on a, c'est pas le cas partout et c'est déjà une grande chance d'avoir tout ce qu'on a. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est arrivé aussi d'avoir cette prise de conscience quand tu reviens en France, de la chance qu'on a d'avoir tout notre mode de vie finalement?
Alors, je le savais déjà, mais parce que effectivement, j'ai quand même beaucoup voyagé. Mais voilà, on le sait qu'en France, on a quand même, on est une terre d'accueil. Il y a énormément de, il y a un beau patrimoine, une très belle histoire, une très belle culture. C'est vrai qu'en revenant en France, j'étais content de partir parce que voilà, j'avais vraiment envie de vivre cette expérience. De plus d'une année parce que j'avais déjà fait la Chine, l'Angleterre pendant plusieurs mois, mais là, se dire, allez, je pars dans une optique de au moins un an, voire deux, trois, c'est complètement différent et je savais que j'allais pas m'implanter là-bas. Et en revenant, c'est sûr que je me suis dit, waouh, c'est aussi ça qui m'a poussé en fait à m'implanter en France parce que j'aurais pu repartir à l'étranger. Il y a plein de tellement de beaux pays, mais j'avais vraiment envie de construire quelque chose en France. Je suis d'ailleurs revenu dans la vallée qui m'est chère, en Valouise, dans le pays des Écrins. Et c'est clairement là que j'avais envie de m'implanter. Après, c'est sûr qu'économiquement, avec mon travail, c'est pas forcément simple de pouvoir s'implanter ici. Bon, je suis pas très très loin maintenant, je me suis mis sur Grenoble, entouré des montagnes, et pas n'importe quel massif, donc on est vraiment bien là-bas aussi. Mais c'est sûr que le voyage m'a montré qu'on était très très bien en France. Voilà, on est râleur, mais c'est pour qu'on ait encore mieux, quoi. Mais c'est quand même top.
Ça, en fait, on n'est pas râleur, on est perfectionniste, c'est ça que tu veux dire?
Voilà, c'est ça, on n'est pas râleur, on est perfectionniste, on est déterminé et perfectionniste.
Pour ça qu'on fait des systèmes toujours plus complexes, toujours plus différents, toujours plus chiants.
Voilà, toujours plus innovant.
Voilà, innovant.
Voilà, c'est ça.
Alors, tu l'as dit, tu as un travail d'ingénieur donc dans la vie de tous les jours, si je puis dire. Est-ce que c'est quand même un métier qui prend du temps? Pour avoir quelques ingénieurs autour de moi, je vois que c'est des gens qui font souvent des heures un petit peu à rallonge. Comment est-ce que tu arrives à conjuguer l'entraînement pour l'ultra-trail, surtout l'ultra-trail de haut niveau, parce que on peut faire de l'ultra et puis ne pas s'entraîner tous les jours plusieurs heures, et on peut faire de l'ultra en recherchant la performance, et ça c'est ton cas. Comment est-ce que tu arrives à conjuguer vie professionnelle et vie sportive et aussi vie personnelle aussi, parce que ça rentre dans l'échiquier aussi, hein.
Alors effectivement, c'est pas tous les jours facile de tout mêler, mais moi j'ai une grosse facilité en ce moment, c'est que je travaille pas. C'est que aujourd'hui je suis sans emploi, ben, je suis en recherche d'emploi, mais en gros en revenant de Nouvelle-Zélande, ben, j'ai cherché pendant 2 3 mois et c'est vrai que les compétences que j'ai acquises là-bas n'ont pas forcément facilité la tâche pour retrouver un emploi stable. Puisque j'ai travaillé pour une start-up, donc j'ai été propulsé à des positions assez avancées, on va dire, par rapport à nos standards européens. Pendant quasiment un an, j'ai pas travaillé, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de montagnes, beaucoup de sport. Et là, dernièrement, donc toute l'année dernière, j'ai travaillé sur un support d'un projet logistique. Et donc, effectivement, j'avais la chance que mon employeur soit quand même assez conciliant sur mes charges d'entraînement et mes déplacements. Donc, ça l'a fait, mais c'est vrai que c'était lever 6h30, 7h, coucher 22h. Bon, ça, on va dire, c'est assez commun. Mais entre-temps, il y avait 7h, 8h de boulot et 3 heures d'entraînement, quoi. Pas tous les jours, mais c'est vrai que c'est une vie à 200%. J'ai pas encore d'enfants, donc ça se gère, mais c'est vrai que pour ceux qui ont des enfants, c'est quand même, je pense, encore un degré au-dessus, et je me considère bien chanceux, donc j'en profite à fond en ce moment. Voilà. Bah, après, je suis en train de chercher un boulot, et c'est vrai que je suis pas regardant pour l'instant sur un trois quarts temps, un mi-temps, mais si c'était un temps plein, 50 heures, bah, ça m'obligerait à réduire mes temps d'entraînement. Peut-être à faire plus de qualitatif plutôt que quantitatif. Ça, je suis un gros boulimique de l'entraînement dans le sens où je ne m'entraîne pas pour m'entraîner. Je fais un peu de fractionné forcément, mais parce que là, je m'aligne sur des courses un peu plus intenses. Moi, ce qui me plaît, c'est être en montagne, si c'est ou être sur le vélo ou être sur les skis. Ça demande du temps. Et ça, pour ça, bah, c'est sûr que bah, avec une vie de famille et un boulot, bah, c'est pas si simple que ça.
Ah, c'est sûr. Et puis quand on sait aussi l'importance du... Parce que c'est souvent un conseil qu'on entend ou qu'on donne de dire, bah, t'as qu'à te coucher plus tard ou t'as qu'à te lever plus tôt. Mais le sommeil reste quand même une des sources de récupération les premières avec l'alimentation. Et si tu dors pas, tu récupères pas. Si tu récupères pas, tu te blesses. Si tu te blesses, tu peux pas t'entraîner.
Ah, c'est un cercle vicieux, faut faire hyper gaffe. Moi, j'en connais autour de moi, ils dorment 6 heures par nuit. 6 heures par nuit, ça fait coucher minuit, lever 6 heures. Mais moi, il me faut 9 heures pour être bien, quoi. Je trouve c'est des surhommes. Ceux qui dorment pas beaucoup, c'est des surhommes et qui perfent en plus. J'en connais pas beaucoup, mais ça arrive, on n'est pas tous égaux face à la nature. Mais je sais que moi, si à 22 heures, je suis pas couché, le lendemain. Ben, je suis inutile quoi, j'ai même pas envie d'aller en montagne quoi, ça sert à rien d'essayer quoi. Après, il faut vivre, hein. Je veux dire, des apéros qui tardent un peu plus, voilà, c'est pas pour ça que je sors plus, hein. Mais c'est sûr qu'il faut savoir ce qu'on veut, un temps pour tout quoi, mais le sommeil, ouais, c'est hyper important c'est sûr, pour récupérer.
Alors tiens, justement, socialement, c'est un sujet, je crois, que j'ai jamais encore évoqué sur les émissions. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé pendant une préparation d'un bel objectif de refuser d'aller à des soirées ou de d'écourter des week-ends entre amis ou ça t'est déjà arrivé ça?
Non, mais c'est mon plus gros problème, hein. Moi, c'est le côté social, j'ai vraiment du mal. Je pense que tous mes amis pourront le témoigner, c'est que je suis insortable, en fait. C'est que tu me donnes un verre, deux verres, bah, je ferme le bar après, hein. Même si la semaine d'après, j'ai une course, c'est que je suis difficilement gérable là-dessus. Après, bah, c'est sûr que faut savoir ce qu'on veut. Si on veut percer, on ne peut pas sortir non plus. Et je suis beaucoup plus raisonnable qu'avant, on va dire. J'arrive à me limiter à mon petit verre de vin de temps en temps. J'essaye pas tous les jours, mais c'est difficile. Surtout quand on aime bien les bonnes choses. Voilà, c'est pas évident, mais faut pas se limiter. Ça reste une passion. S'il y a les copains qui veulent sortir, la famille qui est là, moi, c'est surtout un plaisir d'ouvrir des bouteilles et partager ces moments-là. Après, c'est sûr que ça sera pas Genépi, 3-4 Genépi, hein, mais voilà, on te rempart les lèvres, quoi. Ça sera pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Moi, c'est surtout des automatismes, une fois qu'on les a, quand on boit 2-3 coups semaine, 3-4 semaines, quand on arrive à 15 jours, une semaine de la course, moi, j'y pense plus, quoi. J'y pense plus que j'ai une course. Donc, ça m'arrive quand je dis à mon entourage, bon, au bout de 2-3 verres, vous me dites d'arrêter, hein, ou vous me coupez, vous me mettez à l'eau, quoi. J'essaye d'avoir 2-3 personnes
Les
qui m'aident
garde-fous.
parce que j'arrive pas tout seul.
Ah, c'est sûr que ça doit pas être simple hein, quand on recherche la performance encore une fois hein, parce que bon, si tu recherches juste à être finisher même si tu prends une pizza la veille ça il y a de grandes chances que ça passe quand même hein, la veille c'est bon hein, tout est joué mais
Oui,
quand on est à
voilà.
la recherche de la performance chaque petite chose peut compter dans la balance donc
Oui,
c'est
c'est sûr. Après, c'est sûr que chaque petite chose peut compter. Après, J'en connais qui comptent le gramme, les millilitres de boissons qu'ils prennent pour optimiser, on va dire, la performance. Après, dans l'ultra ou en trail, je pense que oui, il y a la performance, il y a une aptitude physique, mais il y a surtout un gros mental à avoir. Moi, je sais que si je me suis amusé avec les copains avant, avec la famille, à boire des coups, à être content, à pas être bridé, parce que pour moi, c'est aussi ça, être social et profiter de la vie. C'est sûr que ben, je vais avoir la niaque sur la ligne de départ, alors que si je commence à compter tout ça, je sais que non, ça, j'ai déjà essayé, hein, ça marche pas pour moi. Donc, autant être comme on est, si c'est vraiment la motivation de compter les grammes et c'est ça qui fout la niaque, ben, tant mieux. Mais ça marche pas avec moi.
C'est vrai ça que si t'as eu une vie un petit peu de privation pendant plusieurs mois pour cet objectif-là, en fait l'objectif il doit être vachement stressant parce que si tu n'y arrives
Ben c'est
pas,
ça.
tu te dis tout ce que j'ai fait avant là, bah, je l'ai fait pour
C'est
rien.
horrible. C'est horrible. J'ai essayé de tout donner, moi, sur le mute à Madère. C'était donc 115 km avec peut-être 8 000, je crois. C'est assez tôt en saison. C'est en avril, fin avril. C'était en 2018. J'étais affûté comme jamais. Je m'étais entraîné, mais vraiment de manière optimisée. Je faisais vraiment gaffe à ce que je mangeais. J'avais testé des nouvelles méthodes, style les courir à jeun ou faire des jus de légumes. Utiliser l'eau de Quinton, j'étais vraiment sec, sec, sec. Et ben, 4 jours avant, je chopais la pire gastro de ma vie. Bon, c'est peut-être pas de chance, hein. Et la pire course de ma vie. Au 40e, j'étais capot ouvert, je voyais les étoiles, j'avais envie d'abandonner alors que c'était magnifique. Bon, c'est ça qui m'a poussé à continuer. Mais c'était la pire course de ma vie et pourtant, j'avais l'impression que j'allais casser la baraque, hein. J'étais vraiment en forme, j'avais des très beaux chronos, mais j'étais pas performant. Après, pendant une période, j'étais pas dégoûté, mais je m'étais dit, bah, franchement, c'est dommage, tu t'es privé pendant 2 mois. Ok, tu as cherché la perf, mais au final, tu t'y es pas retrouvé. Et donc, j'ai commencé à revivre, à bouffer, pas n'importe quoi, mais à me faire vraiment plaisir, à boire. Et ben, j'ai fait une de mes meilleures performances au Swiss Canyon Trail en remportant la course avec Benoît Girondel, alors que 2 jours avant, j'étais à l'apéro et bon, j'ai fini les tendons abîmés, mais j'avais un mental, j'allais jamais lâcher et j'ai pas été malade, quoi. Donc c'était top. Faut se faire plaisir, ça reste du sport.
Surtout que ça reste quand même du trail et le trail ça reste encore assez compliqué d'en vivre de manière professionnelle et puis il n'y a pas de gros enjeux encore ça viendra sûrement hein, avec le développement du trail et tout mais ça reste encore que du trail si je puis dire
Oui, voilà.
ça fait 2 fois que tu parles de ton mental, tu vois, j'écoute hein, en même temps.
Yes.
c'est quelque chose que tu as travaillé, et qu'est-ce qui fait que selon toi, tu as du mental, et qu'est-ce que c'est pour toi aussi avoir du mental d'ailleurs?
Ouais, le mental, je pense que dans la vie, ceux qui ont du mental, c'est ceux qui avancent. Qui, malgré les échecs, reconstruisent derrière pour aller de l'avant. Moi, le mental, c'est une grosse faiblesse, j'allais dire. Dans une certaine manière, c'est avec l'appréhension d'une course. J'ai tendance à un peu tout remettre en question, donc je me fais accompagner donc par un préparateur mental pour essayer de changer un peu cette dynamique et essayer de moins subir ces préparations de course, quoi, on va dire. Parce que voilà, je peux avoir des. Je sais que je suis prêt, je sais que j'ai validé des entraînements, mais j'ai toujours quelque chose à remettre en cause, des petites douleurs par-ci, par-là. Voilà, c'est le stress de la course, mais au final, c'est nul parce que ça bouffe toute la semaine d'avant, quoi. Donc ça sert à rien. Mais par contre, une fois que le départ a été donné, là, c'est le mental, on va dire, de guerrier ou plutôt. D'engagement, je vais aller jusqu'au bout de mon engagement, je vais jamais raccrocher un dossard, je vais aller au bout coûte que coûte, même si je suis dans la pire des situations, même blessé, je rendrai jamais un dossard, ou j'espère, on dit jamais, jamais, mais bref, c'est comme ça, le mental me fait que j'ai plus d'ego, quoi, c'est faut aller au bout, même si je termine dernier, je serai finisher. ça c'est clair. Et après, donc voilà, ça c'est un peu, c'est comme ça que je définis le mental, mais ce mental-là, je l'ai grâce aux séances ou à la vie que je mène, à l'équilibre. Je pense qu'il faut rester quand même équilibré. Et si on est équilibré, on n'a pas de pensée noire, moins de pensée noire, on est sûr de ses challenges, on est certain de ses capacités aussi. Donc voilà, faut y aller petit à petit, se connaître et pas avoir non plus des objectifs trop gros. Faut y aller pas à pas. C'est sûr que demain, si on me disait tu t'inscris ou on t'inscrit au Tour des Géants, ouais, là je pense que j'aurais un peu peur parce que je suis pas prêt à faire 300 bornes. Et clairement, là, c'est pas du mental qu'il faut, mais ça va au-delà de ça, quoi. C'est du sadomaso aussi. Il faut être sado complet pour aller faire ça, quoi. Non, c'est voilà. Moi, à côté, ça reste que du plaisir. Oui, au bout de 100 bornes, il y a les jambes qui tirent, les jambes qui tirent. Ça, même au bout de 30 bornes, il peut y avoir les jambes qui tirent. Mais c'est le plaisir avant tout, et c'est ça qui fait avancer, moi. C'est vraiment partager aussi l'aventure avec les gens qu'on aime. C'est ça qui fait aller jusqu'au bout, quoi, au bout de ses engagements. Ça fait franchir
Ah,
les caps.
c'est un vrai sujet, ça, le mental. Et moi, je suis convaincu que c'est la discipline qui va percer dans les années à venir. On a connu l'essor de l'entraînement, comment on s'entraîne, ça c'est bon, on commence à connaître. Même s'il y a plusieurs écoles, hein, qualité, quantité, on en a parlé. Il y a aussi la nutrition qui remporte un franc succès. Et maintenant, on voit de plus en plus apparaître la préparation mentale. Et alors, quels sont les types d'exercices que tu vas faire avec ton préparateur mental? Si tu pouvais nous en donner un ou deux, comme ça, qui pourraient être applicables assez rapidement par ceux qui nous écoutent.
Ouais, alors effectivement, je travaille beaucoup moi sur tout ce qui est relaxation, donc travailler sur la sérénité déjà, être conscient que le travail qu'on a accompli nous permet d'être à la hauteur, ou en tout cas de viser les objectifs et pas d'aller directement au crash. Ça passe pas mal par de la respiration, de la méditation, la cohérence cardiaque, on parle de ça beaucoup en ce moment. Donc, pour être honnête, j'épluche un peu tout ce qui se fait sur YouTube. Il y a des applications Zen, Spotify qui s'y est mis aussi. Donc, ça, c'est des outils annexes, on va dire, que je fais un peu tous les jours. Il faut que, quoi, pour moi, ça a été dur que ça devienne une routine. Mais maintenant, c'est ancré. Je le fais. Je me prévois un petit créneau avant d'aller dormir, juste de relaxation. Ça, c'est pour la partie sérénité, apaisement, on va dire, parce que j'ai tendance à être un peu nerveux. Et sur la partie visualisation, donc en fait, en ultra, celui qui ira le plus vite, c'est plutôt celui qui aura le moins de défaillance. C'est comme ça qu'on peut le définir un petit peu. C'est comment identifier les erreurs que j'ai pu faire dans le passé et essayer de les visualiser en faisant différemment et les tournant d'un côté positif. C'est se remémorer les échecs, et essayer de se les imaginer d'une manière différente et de toujours garder un petit côté positif. Et ça c'est s'en souvenir au bon moment aussi quand on se retrouve dans ce problème-là. Un coup de moins bien, par exemple, ou une déshydratation. On a imaginé, on a testé aussi à l'entraînement comment ça pouvait mieux se passer et on met ce protocole-là en place et en course, tout de suite, c'est un déclic positif. On sait qu'on est très mal, mais ça peut passer. Ça peut être un peu plus long à passer. Mais ça passe toujours. Donc, c'est vraiment toujours rester dans ce côté mental. Enfin, c'est terrible, hein. C'est dur. J'y arrive pas encore. Je ne suis pas l'expert du tout. J'ai encore des grosses défaillances. Mais voilà, je le teste un peu tout le temps à l'entraînement, sur la fatigue. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Ouais. C'est toujours construire sur les échecs ou plutôt se remémorer ce qui a pu marcher aussi. Par exemple, et moi j'ai beaucoup travaillé sur une arrivée de l'UTMB où je me suis vraiment retrouvé dans un petit côté euphorique où j'étais complètement en euphorie, quoi. J'étais en extase totale alors que j'avais passé une course, mais horrible, 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 horrible. Du départ jusque. Allez, non, jusqu'au 20e, j'étais à peu près bien, mais du 20e au 170e, j'étais horrible. Et ce qui m'a fait tenir, c'était mon entourage qui était présent à ce moment-là, et de repenser à tout mon parcours, quoi. Et donc ça a été compliqué, et d'arriver sur Chamonix, cette place du Triangle blindée avec tout ce monde. Ouais, j'ai fait 12e, hein, j'étais pas premier, mais pour moi j'avais gagné mon pari, et c'était, voilà, comme j'aime bien dire, je pouvais arrêter ma carrière. J'avais eu ce que je voulais, quoi. C'était pas forcément gagné, mais c'était arriver au bout de moi et être complètement satisfait, quoi. Et ça passe par des petits exos comme ça, mentaux, de prépa mentale.
Mais c'est vrai que c'est complètement contre-intuitif ce côté la forme va revenir. Tu vois, quand tu te dis je suis parti pour 170 km, je suis au 20e kilomètre, ça va déjà pas.
Ah,
Qu'est-ce qui
ça
va
fait
se passer,
noir.
quoi?
Ah oui, bah, ah bah ça, là j'en rigole, hein, mais tout mon entourage, toute mon équipe d'assistance, à chaque fois, quoi, ça n'a pas été forcément une belle aventure, si, parce que tout le monde, au final, était content de vivre ça, mais j'étais pas bien, donc ils le ressentaient. J'arrivais pas à me remonter le moral, ils n'arrivaient pas à me remonter le moral. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir, quoi. Après, voilà, c'était un peu ma première grosse, grosse course. J'avais peu d'expérience. Je sais que maintenant, voilà, le Grand Raid, c'est beaucoup mieux passé. Même si j'ai eu des coups encore plus durs, j'ai réussi à les surmonter d'une autre manière. Donc voilà, l'ultra, je pense que les plus grands, comme François, Kylian, Xavier, ils ont 15 ans, 10-15 ans d'expérience. Moi, avec mes 2-3 ans d'expérience, je suis un petit joueur, quoi. Donc, je suis pas étonné qu'ils soient aussi forts. Oui, c'est des monstres, c'est des machines, mais rien n'arrive sans travail. Donc, voilà, faut continuer à persévérer. Moi, je me fais un peu plaisir, un peu en revenant sur des distances un peu plus courtes, mais c'est sûr que là, à la fin de l'année, j'aurai certainement des belles échéances pour me tester à nouveau. Et c'est ça que je trouve ça trop cool en ultra, c'est que on se découvre à chaque course, quoi. C'est juste dément, quoi. On sait même pas si on va arriver au bout, quoi. Moi, si, je sais que je vais arriver au bout, mais je sais pas dans quel état, quoi.
Ouais. Bah, c'est vrai que je
Quel est...
suis un peu pareil sur ce côté quoi qu'il arrive, même si c'est en marchant tout du long, j'irai au bout, je mettrai le coup
Ouais.
qu'il faudra, mais j'irai.
C'est ça.
Mais par contre, c'est vrai que c'est assez frustrant ce côté la forme baisse et on ne sait pas quand ça va revenir. Et ça peut durer, quoi. Ça peut durer très longtemps des fois.
C'est clair, et ça peut durer très longtemps. Il faut savoir se remettre en question, adapter son rythme, se dire que effectivement rester positif, quoi. C'est clair. Moi, après, ce qui m'a vraiment fait un déclic quand même, c'est que je croyais que j'étais vraiment au fond du trou et que j'ai vu De Walter, donc l'américaine qui était première de l'UTMB et qui était en train de vomir. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y en a une qui est un peu plus mal que moi. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, t'arrêtes ton cinéma, t'as mal, et tout le monde est mal, en fait. Donc, allez, pars. Et donc, voilà, des fois, il y a des petits déclics comme ça, ou peut-être penser à ceux qui n'ont pas la chance de faire ce qu'on peut faire. C'est très mental, quoi, hein, et ça se travaille. Donc, je t'invite à travailler ça à l'entraînement.
Ben, c'est vrai que ça, c'est vraiment une question que je me suis souvent posée. Tu sais, on dit souvent le mental, tu l'as ou tu l'as pas. Bon, ça, moi, je suis pas d'accord avec cette phrase-là. Pour moi, ça peut vraiment se travailler, s'acquérir avec le temps. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes, je vais pas dire de base, sans avoir fait d'exercice particulier avec des préparateurs mentaux ou des psychologues, en ont, et pourquoi d'autres en ont pas? Si on devait dire t'en as ou t'en as pas, même si je pense qu'on a tous une graduation
Oui.
de mental, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai travaillé sur moi, de savoir pourquoi est-ce que j'avais cette base-là de mental, qu'est-ce qui a été dans mon vécu, dans mon histoire, pour que j'arrive avec ce niveau-là de mental par rapport à d'autres ou par
Au
rapport
commun des mortels, ouais.
C'est un travail qui peut être intéressant pour chacun de faire, je pense.
Ah, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on est encore une fois pas tous égaux là-dessus. Le mental, c'est. Il y en a qui ont un mental de cacahuète, je sais pas comment on peut dire, mais qui abandonnent très rapidement. Il y en a d'autres, ils iraient jusqu'à se faire mal pour terminer sur ce à quoi ils se sont engagés. Mais je pense qu'effectivement, ça se travaille comme tout. Je pense que c'est. J'allais dire 20% du boulot, je pense, c'est sur le mental. Après, Moi, je connais des gars très très forts qui ont une prédisposition, qui sont mentalement très très costauds sans le travailler. Franchement, je suis hyper admiratif, c'est pas mon cas. Donc, je m'y attelle pour combler un peu ce trou, quoi, cet écart. Voilà.
Ok, ça marche. Bah, c'est vrai que c'est un bel objectif de travailler ce point-là quand on sait l'importance qu'il a en ultra, encore une fois. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à Martin si vous voulez. Et il y a Fleur qui demande quel est l'ultra que tu as trouvé le plus marquant émotionnellement?
Alors, l'ultra que j'ai trouvé le plus marquant émotionnellement, je pense que c'est l'UTMB, effectivement, malgré le fait que ce n'est pas forcément une course qui me vendait du rêve à la base. C'est quand même, de par la technicité du terrain, de par les sentiers qui sont utilisés, ça reste quand même un sentier très roulant. On est en montagne, certes, mais on n'est pas dans une montagne sauvage comme on peut l'entendre, soit ici dans le Pays des Écrins, soit dans plein d'autres massifs. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller me confronter, on va dire, à l'élite mondiale, on va dire, même si on sait que pas tous les meilleurs coureurs sont à ce moment-là sur cette course. C'est quand même un plateau très relevé. J'avais le dossard 72. Donc, par ma cotation ultra, j'ai fini 12e. C'était juste comme si j'avais gagné l'UTMB, quoi. Donc, émotionnellement, ça a été très fort. Et malgré le fait que j'ai pas hyper kiffé ma course, quoi. J'ai fait énormément d'erreurs. Et voilà, mais j'ai été derrière, on va dire, les grandes stars. J'en ai doublé certaines. J'ai couru avec certaines autres et j'ai beaucoup appris. Et émotionnellement, ça a été hyper fort, ouais. Donc, malgré le fait que l'UTMB, c'est la course, il y a des pour, des contre, c'est que ça reste quand même émotionnellement celle qui m'a le plus marqué, quoi.
Ah, c'est sûr, ça doit faire bizarre hein, de doubler des personnes qu'on pense meilleures que nous. Ça doit donner des ailes un petit peu ce sentiment-là.
Ah, clairement, clairement, c'est. Oui et non, parce que je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, je suis beaucoup trop rapide. Je ne suis pas du tout sur mes allures. Et ce qui était le cas, en fait, c'est que j'étais beaucoup trop rapide et je l'ai senti au centième kilomètre où j'ai fait un gros pop-corn et il n'y avait plus rien qu'à aller. Mais c'est sûr que quand j'étais avec Xavier Thévenard sur les 20 premières bornes, quand on lui a dit que Pau Capel était déjà à 40 minutes devant, on s'est regardé, on a dit non, on a mal entendu. Et là, il a mis la seconde et moi, j'étais à l'arrêt complet. Donc là, ça a été, c'était pas compliqué à comprendre. Ensuite, j'ai fait un bon bout avec Germain Grangier. Donc là, ça a été très sympa. Il y avait quand on a repris Sylvain Cour, les frères Camus, Patrick Bringer, Tim Tollefson, Eden Ox, Zach Miller, tous ces mythes, quoi. C'est sûr que on se dit waouh, ok, je suis peut-être pas si mal que ça. Donc ça motive, c'est sûr. Après, ça c'est juste pour flatter mon ego, mais c'est sûr que ça fait quand même du bien, quoi.
Ah bah c'est clair, hein. C'est clair, hein. Tout le monde ne peut
Ouais,
pas se
c'est clair.
vanter de ça. Hein.
Ouais, après, voilà,
Sans se
faut
vanter,
remettre
mais
les
tout
viseaux sans.
le monde, c'est pas dans l'effet d'arme de tout le monde, ouais.
Voilà, après, faut garder l'église au centre du village. Hein. Quand Mute, j'étais vraiment pas bien, je me fais doubler par De Walter, Cathy Scheid, Audrey Tanguy. Je me suis dit, bon, là, t'es quatrième féminine. Ouf, c'est dur à digérer dans le sens où voilà, j'irai au bout parce que c'est magnifique et j'ai rencontré des gens passionnants et qui sont devenus des amis d'ailleurs. Mais c'est pas tous les jours facile, quoi.
Alors, fallait s'y attendre. C'est le moment, c'est l'actualité. On est en plein dedans et je m'attendais à ce que cette question soit posée. Quel est ton
Allez, allons-y.
avis sur l'annonce UTMB Ironman et leur nouveau circuit?
Ouf, cette question. Effectivement, je ne suis pas trop aficionados des news, donc j'ai entendu parler de l'histoire. Je connais Ironman de réputation, donc une énorme structure. Voilà, je ne vais rien vous apprendre, l'UTMB aussi. Pour moi, j'ai pas vraiment d'avis. Je trouve ça, dans un sens, je trouve ça bien que des organisations comme ça propose des événements pour tous. Après, dans les modalités, je crois que j'ai entendu parler du fait qu'il fallait au moins faire une course qualificative by UTMB ou by Ironman pour pouvoir être qualifié sur l'UTMB. Ça, les modalités, c'est sûr que si on va vers l'élitisme et que la professionnalisation, c'est trop dommage parce qu'on sait que le trail, c'est une grande famille et que ça marche aussi parce qu'on est tous passionnés et qu'on est content de boire une bière à l'arrivée tous ensemble. Et moi, je suis pas forcément pour la professionnalisation parce que, effectivement, de ce fait-là, éthiquement, je trouve que c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on est tous à se rassembler à la fin d'une course. Après, c'est bien qu'ils proposent quelque chose parce que la Fédé ne le fait pas forcément. Après, encore une fois, je suis pas au courant de tout. Ça reste un business. C'est bien que ça soit proposé, mais j'espère qu'il y aura aussi d'autres alternatives, que d'autres personnes créeront peut-être des challenges ou ça existe, un Skyrunning ou l'Ultra Trail Tour. Bah, c'est des grosses structures commerciales. Et voilà, tant que ça propose des courses, tant que ça nous garde, ça nous motive, pourquoi pas, quoi. Après, j'avoue qu'il y a des pour et des contre. Après, voilà, je suis vraiment pas pour la professionnalisation, même si ça serait bien que on gagne un peu plus de pépettes et que certes, quoi, qu'on puisse vivre de notre passion. S'il faut en passer par là, ça peut être une solution, mais il ne faut pas oublier effectivement que, bah, que tout le monde doit pouvoir avoir l'accès à ce genre de course. Parce qu'on sait, ça nous fait tous rêver, quoi.
Bah,
Je
tu
suis
vois.
désolé, je n'ai pas forcément répondu à la question, mais parce que je ne suis pas hyper impliqué et effectivement, j'ai tendance un peu à me détacher quand je vois la grande machine arriver, mais à voir comment ça évolue, quoi. On verra.
Je suis bien content que ce soit pas à moi qu'on pose la question parce que j'aurais été incapable de répondre, j'ai pas encore d'avis tranché
C'est
sur
difficile, hein? Ouais.
balance qui est d'un côté, après je me dis ouais mais il y a des arguments de l'autre aussi, enfin j'ai vraiment du mal à me faire un avis sur ce sujet-là et c'est pas un sujet simple en tout cas,
Non,
ça c'est
après, moi, pour rebondir là-dessus, j'avais beaucoup d'a priori sur l'UTMB, sur la grosse machine. Pour être honnête, c'est hyper carré, hyper structuré, et ça a été un plaisir de courir sur cette course, d'avoir été encadré. C'est tellement pro. D'accord, on paye. D'accord, c'est cher. Mais en même temps, ouais, y en a, c'est le rêve de courir cette UTMB. Et je trouve ça vraiment pro ce qu'ils font, le boulot qu'ils amènent. Je trouve ça d'un excellent niveau. Et ça, je pense qu'il faut leur tirer notre chapeau parce que il y en a très peu qui sont de ce niveau-là. Après, oui, c'est commercial et c'est pas ouvert à tout le monde. C'est dommage. Mais pour ça, il y a plein d'autres courses magnifiques qu'il faut promouvoir à côté aussi, quoi.
Bah, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que Catherine Poletti, que j'ai reçue il y a quelques mois,
Ouais.
disait, bah, nous, on produit un événement qui est hyper qualitatif. On fait vivre un vrai événement aux gens. Si vous avez envie de le vivre, venez. Et si vous n'avez pas envie, il y a plein d'autres courses magnifiques à faire.
Exactement. Exactement. Ben moi, je suis hyper content de l'avoir vécu parce que ça met des standards et ça, c'est quand même un mythe. Mais je serais extrêmement. Voilà, je pense pas que je le recourrai un jour parce qu'il y a tellement d'autres courses auxquelles je pense tout de suite. Ben, l'échappée belle, la Pika Pika, l'ELS 2900. Bon, il n'y a plus l'Andorra, mais il y en a plein d'autres. La Hard Rock, bon voilà, on a tous nos petites courses préférées. Là, je citais que les grosses, quand même des grosses usines, mais voilà, il y a plein d'autres courses et il faut se faire plaisir. Il y en a pour tous, quoi.
Exactement. Voilà. Allez, hop, sujet clos.
Allez, on tourne la page.
Alors là, on n'en a pas encore parlé, mais d'ici alors quelques semaines, si je me trompe pas, dans 2 semaines, tu as donc un trail qui est prévu en Italie, 37 km. Pourquoi t'être engagé sur un trail de courte distance, même si pour certains, ça reste un objectif fort pour dans leur vie, hein, remettons encore une fois l'église au centre du village. Pourquoi t'es engagé sur une course rapide alors que tu as plutôt un profil d'ultra-trailer? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller faire cette course-là? Et si tu peux nous en parler un petit peu plus d'ailleurs.
Ouais, alors là, je suis en pleine période d'affûtage parce que c'est samedi, donc dans 2 jours et demi, dans
Ah,
3 jours.
ouais.
Ouais, donc voilà, ça arrive vite. Pourquoi Je reviens un peu à mes premiers amours, quoi. Quand j'ai commencé l'athlé, c'était bah, pendant les écoles d'athlé, c'est 3 à 4 séances semaine avec deux d'intensité. On va vraiment chercher à pousser le corps à la performance. Et c'est ce que je retrouve un peu sur ces formats plus courts où l'intensité est extrême, quoi, pour moi, du coup, du passer du randonneur, on va dire, rapide. À côté athlétisation, on va dire, au milieu des gars qui, bah, qui tournent très, 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 très fort en vitesse sur des parcours très cassants. Moi, j'ai un petit goût de reviens-y, on va dire, et je trouve mon pied, en fait, avec ce petit côté adrénaline, à pousser à fond dans la machine et à avoir des sensations, surtout en descente, parce qu'à la montée, je peux vous dire que je ne suis pas dans les premiers. Donc, ouais, à la descente, j'ai des vraies sensations. Et ouais, à l'arrivée d'une course, ouais, je suis blindé d'adrénaline. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Et j'avais un peu, à un moment donné, voilà, j'étais allé vers l'ultra parce que j'avais envie de passer du temps en montagne, d'être bien en montagne, de trouver un certain équilibre. En ultra, ce n'est pas la randonnée non plus, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais. C'est beaucoup moins intense, c'est sur la durée, c'est le côté mental. On va chercher plus loin, c'est presque une introspection. Alors que sur du court, on réfléchit même pas, il n'y a pas d'introspection. Sinon, y a plus d'effort. Il faut tout donner dès direct. Et c'est ça que j'aime bien, quoi. Donc, je m'étais dit, ouais, je suis un coureur d'ultra, mais en fait, pourquoi pas un peu varier les plaisirs, quoi. Et donc, je m'y suis remis avec le ski, alpinisme notamment, à faire des intensités. À trouver des côté performance en montagne. Et c'est vrai que ça m'a plu. Et là, j'ai même hésité à faire une saison, on va dire, Skyrunning ou Golden Trail Series. Donc là, je vais me tester. Y a un plateau digne du marathon du Mont-Blanc sur cette course de 37 bornes. Parce qu'il y a David Emmanini, Thibaut Baronian, Kevin Vermeulen, Felbert, pardon. Voilà, il y a du très très haut plateau. Il y a le Team Salomon France, on va dire. Il y a ces championnats aussi italiens. Donc, autant vous dire que effectivement il va y avoir du pop-corn en l'air et l'ouverture de capot. Donc, moi le premier, je pense. Mais voilà, j'ai envie d'aller me péter les guibolles et voir un peu comment est la forme, quoi. C'est surtout ça. Peu importe le classement.
Ok, donc si je résume, c'est un petit peu pour le challenge aussi de tester
Ouais,
sur quelque
exact.
chose où on t'attend pas.
Exactement. Voilà, j'avais fait les Matézins, 25 km 2000. C'était donc Skyrunning France ou International, peut-être même. Donc, au tranchant, on l'avait remporté. Bon, je suis à 20 minutes, mais je fais 9e et j'ai quand même joué avec des gars spécialistes, quoi. Bon, ils ont 10 ans de moins que moi, mais c'est pas grave, je me suis vraiment amusé. Et effectivement, ouais, à l'arrivée, j'avais les jambes démontées et j'avais pris du plaisir, quoi, d'aller au bout de moi. Donc, voilà, je me suis un peu frotté les épaules sur Ultra avec le gratin de l'Ultra Trail. Là, j'ai envie d'aller voir un peu avec le gratin de la distance marathon, voir ce que ça peut faire. Après, je ne vais pas jouer, hein, je ne suis pas prétentieux à ce point-là. Mais voilà, c'est une course contre moi, un challenge. Voir ce que je suis capable de faire et dans le futur, on verra. Hein. Si j'ai moins de temps parce que je reprends un boulot, j'ai une vie de famille, eh ben, va bien falloir s'adapter. Peut-être plus, j'aurais peut-être plus le temps de faire que de l'ultra. Donc, voilà, il faut prendre du plaisir là où on peut.
Ouais, c'est vrai que des personnes comme Antoine Guillon qui arrivent à faire de l'ultra toute leur vie, il n'y en a peut-être pas beaucoup, du
Ouais,
moins à haut
peut-être pas
niveau.
beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Après, il y en a, c'est leur dada. Hein. Même François, il pourrait perfer sur du 20, 30, 40, mais j'en suis persuadé, vu comme il perf en ski alpinisme. Après, lui, son truc, c'est l'ultra. Ouais, ça s'explique pas non plus. Hein.
Alors, comme tu parles de François, j'en profite pour afficher un commentaire qui est aussi tout d'actualité. Petite parenthèse, François, pour Sissi, Sylvain Cusseau. On en parlait un petit peu en off de cette victoire de Sylvain Cusseau avec Manon, devant François Daen. Toi qui connais François, qu'est-ce qui a bien pu se passer?
Alors, je le connais pas si bien que ça. Je sais que c'est une énorme machine pour l'avoir vu. Je pense qu'il a eu des gros soucis. Après, c'est un amoureux de l'aventure. Il a voulu aller quand même au bout, mais je pense que tous les feux étaient montré rouge, quoi. Ça allait pas du tout, j'imagine. Il a fait un premier stop dans la nuit. Moi, je pense qu'il y a, il y a un gros pépin. Un gros pépin, je sais pas, je peux pas l'expliquer à sa place. Après, c'est beau qu'il soit allé au bout. Il a quand même pris la troisième place. Donc, il a fait une petite remontada. C'est magnifique pour Sylvain et Manon. C'est quel coup de pub, quoi. Franchement, elles ne pouvaient pas rêver mieux. En plus, elles avaient l'air de se régaler. Elles avaient le smile toute la course. C'était franchement beau à voir. C'est vrai que ça donne envie, en plus, toutes ces images de course et surtout dans de tels paysages. Après, ben, j'espère qu'il se remettra bien. J'espère que ce n'est pas trop grave. J'espère que ce n'est pas le Covid pour lui. Parce que c'est vrai que des coups de chaud comme ça, c'est jamais agréable. Mais bon, je lui fais confiance. Lui, il a un sacré mental. Donc, il va nous revenir encore plus fort.
Un petit élixir de Beaujolais et puis, puis on n'en parle
Bing! Voilà, c'est tout ce qu'il sait faire de bien.
plus. Alors tout à l'heure, on parlait un petit peu de Madère et Anaïs a une question à ce sujet-là. Est-ce que tu as profité du paysage, beaucoup de marches comme sur le Grand Raid? C'est vrai qu'on compare souvent cette course-là, le Mute au Grand Raid. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as remarqué aussi, que c'était similaire ces deux courses-là?
Oui, effectivement. Alors, j'étais à Madère avant d'aller à La Réunion. Quand j'étais sur place, on m'a dit Madère, c'est un peu comme La Réunion, en plus joli. Alors là, je ne vais pas me faire des potes à La Réunion. Moi, j'ai préféré La Réunion. Voilà, je me rattrape. Parce que c'est plus grand, il y a plus d'espace, il y a un peu plus de diversité. Madère, oui, j'ai beaucoup profité du paysage, vu que j'étais en galère totale. J'arrivais plus à courir au 40e kilomètre. Le bide en vrac, donc j'ai fait pas mal de pauses au bord du chemin, si vous me comprenez bien. J'ai profité d'un joli lever de soleil et c'est magnifique, effectivement. Je vous conseille d'aller le faire. Le pays des fleurs, de la Poiscaille aussi, il y a des beaux marchés, c'est magnifique. Par contre, effectivement, préparez-vous les cannes parce que les marches, elles font très très mal. c'est clair. Là, par contre, j'aimerais bien y retourner, ça c'est sûr. Mais il y a tellement d'autres pays, d'autres îles, pas très loin, on va dire, à aller explorer. Je pense aux Canaries, aux Açores, voilà, au Cap Vert notamment aussi. J'aimerais bien le Mute, c'est sûr, parce que j'ai une petite revanche à prendre. Mais je pense qu'effectivement, c'est une destination classe à aller visiter, ouais.
Et alors, si tu avais une course que tu n'as pas fait et que tu te dis celle-là, il faut que je la coche avant de passer l'arme à gauche, absolument.
J'ai le temps, hein, j'ai le temps.
Ah oui, bien sûr,
J'espère.
c'est tout le mal qu'on te souhaite.
Ouais.
ou alors, plutôt avant d'arrêter le sport. Voilà.
Ouais, d'accord. Ok.
laquelle ce serait?
Alors, bizarrement, j'ai pas d'objectifs comme ça qui me viennent. Oui, il y en a plusieurs. C'est vrai qu'en ce moment, bah, avec le Covid et tout, on a tendance à penser local. C'est sûr que autour de chez moi, bah, j'aimerais réaliser le tour des écrins, donc essayer de mettre une marque un temps record. Donc c'est à la maison, je connais assez bien le terrain, être entouré des gens que j'apprécie, essayer de mettre un nouveau temps, ça me botte bien. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me motive bien. Après ça, je pense que je vais pouvoir le faire bientôt. Il y a l'échappée belle aussi qui me motive bien. Aussi pas très loin, il y a la Pika Pika, donc la course organisée par Nahuel Passera en Ariège et qui fait 110 km avec 11 500, je crois bien. C'est une des courses les plus dures techniques, mais c'est tellement magnifique ce coin de l'Ariège que effectivement ça reste aussi un bel objectif pour moi. Après, oui, j'ai des grands rêves comme la Hard Rock, il y a des courses à cocher. Pour moi, ça reste des courses mythiques. Il y a aussi l'Ultra Trail Mont Fuji. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais la destination, ça reste une culture aussi incroyable. Voilà, c'est des courses encore qui me passionnent. Après, comme l'année dernière, je me suis greffé sur le projet Chamonix-Briançon, donc 200 km avec Baptiste Robin et Grégoire Körmer. Ça s'est fait en un post Facebook qui a circulé, j'ai vu qu'ils allaient faire ça. Je me suis dit, tiens, l'équipe Salomon, ils avaient fait ça à trois. ils sont que deux, je vais leur proposer de me joindre à eux. Du jour au lendemain, j'étais embarqué dans l'aventure Chamonix-Briançon. Donc voilà, je sais qu'il y a des super belles aventures qui se créent du jour au lendemain. J'ai plein d'idées en tête, des dossards accrochés. Après, c'est sûr qu'il y a des courses qui ne me passionnent pas vraiment. Donc ça, je sais, celles que je ne veux pas faire, mais celles qui me passionnent vraiment. Je ne me suis pas vraiment encore penché dessus, mais voilà, chaque chose en son temps, encore une fois.
Ok, ça marche. C'est vrai
Ça
qu'il y a
donne des
encore beaucoup.
idées.
Ah,
Oui,
t'as donné
voilà.
plein d'idées, plein d'envie à tous ceux qui nous écoutent et à moi le premier. Hein.
Exactement, exactement. Après, c'est vrai que je suis très fan des projets off, donc ça sera des dossards qui me passionnent. Ouais, il y en a, mais c'est plutôt des grandes traversées, des projets avec les potes qui me donnent envie. Ouais, c'est clairement plus ça aujourd'hui.
Ça, c'est quelque chose que tu as accentué avec le Covid ou tu le faisais déjà avant ce genre de projet?
Non, alors j'ai la chance d'être entouré de passionnés, encore une fois, qui me proposent des beaux projets. J'ai fait en 2018, donc déjà en Nouvelle-Zélande, pardon, en reprenant à la base, en 2016, 2017, même 2015, j'ai quand même à chaque fois fait des petites escapades de découvertes un peu longues, on va dire, plutôt en solitaire ces coups-ci, et en revenant en France, donc retrouver Nahuel, encore une fois, qui m'a proposé d'aller faire Bob Graham, donc en Angleterre, dans le Lake District. Donc le Bob Graham, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boucle de 110 km avec 8000 aussi, et ça monte pas très haut en altitude, mais là en ce moment, il y a des photos qui recirculent encore comme sur les genoux dans le GIF. Donc on a eu des conditions dantesques, de la neige, du soleil, de la pluie, de la neige, du grêlon, du vent, ça a été horrible. Sauf qu'on a été les premiers Français à finir en moins de 24 heures. Ça a été une énorme émotion à l'arrivée de boucler ça avec un de mes meilleurs amis. Et donc, ça m'a vraiment boosté encore à partager ces aventures. Et je pense que ouais, les off, c'est ce qui me passionne. Et donc, Chamonix-Briançon en 2019, en 2020, pardon. Ouais, cette année, j'espère pouvoir faire un tour des écrins entouré. On verra ce qui peut se faire. Et essayer d'au moins avoir un projet off par an, ça serait cool. Ouais. Ça serait vraiment top.
Ça c'est un bel objectif, hein.
Ouais.
C'est quelque chose que je me suis mis aussi comme objectif de faire une traversée, un off, un projet de grosse rando ou un truc comme ça,
C'est ça.
pour varier
C'est
un petit
ça.
peu le travail à Dossard.
Oui, exactement. Et ça permet en plus de choisir vraiment son itinéraire, d'accéder à une liberté, on va dire, d'expression encore plus grande, quoi. On n'est pas là à suivre des fanions. On va peut-être faire un tracé, le mettre sur une montre GPS pour être sûr de pas trop s'égarer et pas s'emmerder trop. Mais c'est vrai que ça permet de vraiment construire en fait un objectif qui nous est cher et avec les gens qu'on aime. Et sur un parcours qu'on aime, donc c'est ça que je trouve génial en fait, c'est qu'on est complètement libre de faire ses choix, alors que sur une course, bah, si tu te trompes un chemin, tu as loupé le balisage, bah, voilà, tu es plus libre, quoi. Faut que tu rattrapes ton retard et tu as raté ta course, quoi. Donc
Mmh,
alors
bien
que
sûr.
sur un projet off, bah, tu te trompes, bah, tu le vois et tu reviens, bah, c'est pas très grave, quoi. C'est ça aussi, c'est la liberté, quoi.
Alors, je rebondis parce que j'ai été un petit peu mal poli de la part de la personne qui nous a mis en relation et ton introduction de ta montre GPS me fait une transition toute faite. On est
Dis-moi.
mis en relation par Coros
Oui.
Quelle était la découverte de Coros avec Martin? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et quel a été votre partenariat ensemble?
Alors effectivement, moi, ça fait un an et demi, voire presque 2 ans que j'ai signé chez Coros. C'était directement avec le distributeur France. Plein d'envie de créer une équipe, de créer un team, d'avoir une identité forte d'un groupe présent dans l'élite du trail et pas que, parce que cette année, on peut voir qu'il y a un team ambassadeur et élite qui a triplé de volume. Aujourd'hui, clairement, moi, sur les produits, je suis fan parce que, bah, on sait tous, l'autonomie a été démontrée à maintes reprises. C'est incroyable. Moi, je sais que je recharge maintenant tous les 10 jours. Ouais, certes, on pourrait la recharger tous les jours, mais c'est quand même un confort de vie que moi j'apprécie. Après, en termes de spécificité de montre, je l'utilise beaucoup l'hiver. Elle est facile d'utilisation. On peut personnaliser les cadrans. C'est précis en termes de GPS. Franchement, c'est du beau matos. Après, je pense que tous les constructeurs proposent du matos. Il faut voir les affinités qu'on peut avoir avec certains. Moi, ça se passe bien. On verra par la suite, quoi.
Ouais, c'est sûr. Enfin, comme toi, j'en ai pas utilisé des tonnes, mais du moins celles que j'ai fait l'affaire, fait le boulot. Et pour les
Ouais.
hop, ça tient tout du long. Donc ça, c'est déjà un bon point. C'est tout ce que je recherche moi finalement.
Non, ben c'est ça qui est hallucinant, c'est que ça reste précis. Moi, je sais que sur la traversée de Chamonix-Briançon, donc 200 km, on a mis un peu moins de 32 heures. J'étais à la trace GPS, donc sur le petit cadran avec la flèche qui indique où aller. Pendant 32 heures, j'avais encore 18% de batterie à la fin. C'était juste dément, c'est un problème en moins, quoi. C'est sûr que j'ai eu dans le passé, sur Bob Graham, on a utilisé trois montres, quoi. On était obligé. Et encore, on a eu des problèmes de précision entre différentes marques. Voilà, là, c'est un souci en moins. Oui, on a encore une fois de plus un peu plus assisté, mais c'est pour notre confort. Et je suis content de l'avoir. Je suis content de savoir que ça te plaît aussi.
Bon après encore une fois moi j'en ai pas utilisé 1000 hein, donc j'ai
Oui,
pas
non,
une
mais
grande
ça reste du très
expérience à
bon
ce sujet-là.
matos. Non, ça fait 1 an et demi que je l'ai, elle n'a pas bougé, c'est du très bon matos. Hâte de voir ce qu'il propose par la suite.
Martin, on arrive déjà à plus d'une heure. C'est passé
Déjà?
très très vite. Ouais.
Ouais, je parle trop, c'est pour ça.
On parle jamais trop dans cette émission. Je préfère quand on parle trop que quand on parle pas du tout. Donc, il n'y a pas de problème.
Mec, mec.
Où est-ce qu'on peut suivre toutes tes aventures, Martin?
Alors, je vous aurais bien proposé de venir avec moi, mais on risque d'être quelques-uns sur les sentiers. Non, on va en perdre en route. Je vous propose de me retrouver sur mon Instagram, sur mon Facebook. Voilà, c'est un peu bateau, mais c'est là où j'essaye d'être le plus réactif possible et j'essaye de vous partager mes plus folles aventures. Après, voilà, je suis très dispo. Vous pouvez aussi me retrouver au Trail des Écrins, donc le 19 juin. Comme je te disais en off au préalable, on a eu l'accord de la préfecture pour avoir 500 coureurs par jour. Les 1 000 sélectionnés ou les 1 000 qui se seront inscrits, je serai présent, je serai là, on pourra échanger. Après, je serai dispo aussi à l'Arc'teryx Academy, l'événement montagne de mon sponsor à Chamonix, premier week-end de juillet. Donc encore une fois, là, j'animerai des trails. Des ateliers trail, pardon, donc des petites sorties trail avec des conseils par-ci par-là, et des soirées, donc événements avec des films, on pourra discuter autour de ça, j'espère autour d'un verre, si on peut. Et puis aussi, et ça sera même avant, du 11 au 13 juin, je serai à Bourg-Saint-Maurice, sur le Winter Film Festival, où là aussi, en plus de visionner des films, j'animerai des ateliers trail. J'espère vous voir nombreux à ces événements. D'ici là, j'espère que vous portez tous bien pour qu'on soit en forme sur les sentiers ensemble.
Ouais, bah en tout cas, ça donne un beau message d'espoir pour la suite et on voit le bout de cette satanée période sans dossard et ça fait beaucoup de bien de penser qu'on a une issue là qui va s'approcher bientôt.
Ouais, on y croit, on y croit. Il faut.
Super. Alors Martin, la dernière question, c'est toujours la même. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021, pour ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ça peut être de tout, trail, pas trail, professionnel, pas professionnel. C'est toi qui choisis, c'est ton moment, tu ajoutes ce que tu as envie d'ajouter.
Alors, bah déjà, je voulais te remercier déjà de m'avoir fait une petite place sur ton podcast, on va dire, ou sur ton café trailer. C'est plutôt tisane trailer là pour moi, désolé, mais et
Germain
attends pour
Grandier
tout.
avait fait la même réflexion.
Ouais, bah, j'ai failli être à l'apéro, mais je me suis dit, bon, à 2 jours d'une course, non, peut-être pas. Voilà, tisane trailer pour moi. Un grand merci à toi. Après, personnellement, c'est vrai que je recherche quand même une stabilité sur la région de Grenoble. Donc, j'espère trouver un boulot dans le secteur des sports outdoor assez rapidement en tant qu'ingénieur. Donc, voilà, ça me permettrait d'avoir un équilibre travail, passion, famille qui me conviendrait bien pour l'instant. Donc, voilà. Et après, toujours avoir du temps en montagne avec les amis, avec les copains, et toujours se faire plaisir, quoi.
Super. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup,
Ben,
Martin,
merci à toi.
pour cette heure 5 d'échange. Merci beaucoup à tous aussi d'avoir été présents dans les commentaires. Je suis désolé, je n'ai pas pu afficher toutes les questions. Il y en avait quelques-unes quand même, hein. Et je vous
Merci à
souhaite à
vous
tous
en tout cas.
très très bonne soirée. À bientôt.
À bientôt, salut.